Amen. J'aimerais parler avec vous ce matin sur la bénédiction malgré la persécution. Daniel chapitre 6, verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs rendent compte que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Les hommes dirent : Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis, ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent : Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme que toi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction, écris le décret, afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Amen. On arrête là la lecture, on reviendra sur le chapitre 6 par la suite. Mais déjà, nous pouvons considérer cette première partie. Certains chrétiens pensent que lorsqu'ils viennent à Jésus, il n'y aura plus aucun souci, plus aucune difficulté, rien ne peut leur arriver. Et dès que survient une épreuve, ils sont décontenancés, ils ne comprennent plus, ils pensent que Dieu les a abandonnés et parfois même font naufrage quant à la foi. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous a appris à vivre la vie chrétienne. Il nous a enseigné que nous connaîtrions des persécutions et qu'il nous garderait dans les persécutions, mais qu'il nous faut les traverser avec sa grâce. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont perturbés pendant l'épreuve, parce que nous ne comprenons pas et nous avons du mal à saisir avec notre esprit que c'est dans l'épreuve même que Dieu utilise, il vient à notre secours et il utilise l'épreuve pour nous faire grandir. Et la persécution est un outil aussi pour faire l'œuvre de Dieu, même jusqu'aux extrémités de la terre. Considérez l'Église du 1er siècle. Ce n'est que lorsque les persécutions ont surgi qu'elle a commencé à aller témoigner l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Tant qu'il n'y avait pas la persécution, ils restaient à Jérusalem, ils étaient tranquilles. Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, alors ils restaient à Jérusalem. Ils avaient oublié la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Et la persécution, à partir de Actes chapitre 8, verset 1er, il y a eu les chrétiens qui se sont répandus sur tout le bassin méditerranéen. Ils ont évangélisé en tout lieu parce qu'ils y étaient contraints. Et ça a permis en fait à l'œuvre de Dieu de progresser. Alors, nous disons que l'épreuve, ça permet notre croissance. Je me rappelle quand nous avons eu nos 3 enfants, lorsqu'ils étaient bébés, on leur donnait du lait de croissance, un lait spécial pour leur permettre de bien grandir. Et merci Seigneur, ça a bien fonctionné. Parce que maintenant, ils sont bien. C'est le lait de croissance. Et pour nous, le lait de croissance, c'est la parole de Dieu, mais les épreuves nous permettent de grandir. Le lait de croissance, c'est la parole, mais les épreuves nous permettent de mieux comprendre la parole et produire en nous des changements qui nous font grandir. Et à chaque fois qu'on a une épreuve, on ressort plus fort. On ressort grandi dans sa présence. Alors j'aimerais voir le premier point, c'est la faveur du roi, au verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel a donné un bon témoignage auprès de ce roi. Il a donné un bon témoignage auprès de Nebuchadnezzar. On l'a vu lorsqu'il a interprété le rêve, lorsqu'il a vu cette statue et qu'il a compris ce qu'il s'agissait. Il a donné les définitions que Nebuchadnezzar ne comprenait pas. Il a servi sous Belshazzar, il a interprété l'écriture de la main et qui avait écrit sur le mur. Et puis maintenant, c'est Darius, le nouveau roi en place. On voit que les états se succèdent, mais que Daniel, qui a la bénédiction de Dieu sur sa vie, il reste en place. Et même, il donne un si bon témoignage que le roi pensait à l'établir au-dessus de tous les autres serviteurs comme responsable du royaume. Alors, Daniel est resté fidèle, il nous laisse un bon témoignage. Il n'a pas baissé spirituellement avec les années. Et ça, ça nous parle de la fermeté, de rester proche du Seigneur quand les années passent et quand les difficultés surviennent. Nous devons être des chrétiens thermostats à clim réversible. Qu'est-ce que c'est un thermostat à clim réversible ? Il reste à température constante. Nous sommes réglés, par exemple, sur 21 degrés. S'il fait froid dehors, nous savons qu'automatiquement, la chaleur va arriver. Même si pour l'instant il fait froid, la chaleur va arriver parce que nous sommes réglés sur la bonne température. S'il fait trop chaud, à ce moment-là, c'est le frais qui va arriver parce que nous sommes réglés sur la bonne température. C'est ça le chrétien qui est connecté avec Dieu, il est réglé sur la bonne température spirituelle. Alors il peut faire froid, il peut faire chaud, il reste constant, il reste fidèle, il reste attaché au Seigneur. C'est très différent des chrétiens qui sont un jour en haut, le lendemain complètement effondrés, après ils remontent, ils replongent. Et ça, c'est malheureusement le lot de beaucoup qui n'ont pas saisi cette persévérance dans la foi, dans la confiance en Dieu que nous devons conserver. Alors Daniel a la faveur de son responsable, c'est-à-dire du roi, parce que la main de Dieu est sur lui. Et nous avons un privilège, nous chrétiens, c'est que la main de Dieu est sur nous. Regardez Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé esclave. Vraiment, il n'avait personne pour lui, mais il avait Dieu qui veillait sur sa vie. Et lorsqu'il s'est retrouvé chez un homme qui s'appelait Potiphar, qui avait besoin d'un responsable, il a vu cet esclave qui était différent des autres, parce que la main de Dieu était sur lui. Et il a dit à cet esclave, prends cette responsabilité. Et tout ce que faisait Joseph prospérait entre ses mains, parce qu'il avait la main de Dieu sur lui. Et ainsi, il s'est retrouvé à la tête de la maison de Potiphar. Et ainsi, nous voyons que les chrétiens sont bénis partout où ils vont. Jacob, qui était un croyant, s'est retrouvé chez son oncle Laban, et là encore, il a été béni. Il avait tellement de biens, de possessions, de troupeaux, que son oncle lui a dit, il n'y a pas assez d'espace pour nous, il faut se séparer, et ainsi ils se sont éloignés l'un de l'autre. La bénédiction a accompagné Jacob. Pourquoi ? Parce qu'il était fidèle au Seigneur, parce qu'il comptait sur la grâce de Dieu, et Dieu a agi dans sa vie, Dieu a transformé aussi son caractère. Alors Daniel ne cherche pas la faveur des hommes, mais il obtient la faveur des hommes parce que la bénédiction de Dieu est sur lui. Nous devons rechercher, frères et sœurs, la faveur de Dieu. C'est Dieu qui ouvre les portes fermées. C'est Dieu, par exemple, qui nous permet de trouver du travail alors que la conjoncture est difficile. Moi, ça fait des années que j'entends, c'est la crise. Je ne sais pas vous, mais déjà quand je cherchais du travail, ça remonte à bien des années, et à l'époque, c'était déjà la crise. Déjà, c'était dur, on ne trouvait pas de travail. Et c'était dans la période, il y avait la guerre du Golfe, il y avait beaucoup de craintes, il y avait beaucoup de difficultés. Eh bien, Dieu nous permet de rencontrer les bonnes personnes. Et lors d'un entretien, je me suis retrouvé avec un responsable d'un grand journal sur la région de Mulhouse, et il cherchait quelqu'un. Et dans l'entretien d'embauche, je commence à lui expliquer que moi, en fait, je cherchais du travail, mais c'était pour 7 mois, parce qu'après, j'avais reçu un appel à servir le Seigneur, je voulais entrer dans une formation d'institut biblique ou de faculté de théologie. Alors, je commence à lui parler du Seigneur, et je commence à lui expliquer mes projets. Et je me suis dit, en même temps que je lui parle, mais c'est pas possible, il va jamais me prendre, parce que ça correspondait pas à son besoin. Parce qu'il ne fallait pas prendre quelqu'un pour 7 mois, il cherchait quelqu'un pour une durée beaucoup plus longue, quelqu'un déjà qu'il faut former et qu'il faut mettre dans l'entreprise. Et puis, je ne sais pas, Dieu a mis sur mon cœur de lui parler de Dieu. Alors, je l'ai fait, je suis reparti un peu déçu parce que je craignais vraiment que c'était terminé. Et j'ai reçu une lettre une semaine après, « Monsieur Botteron, vous êtes embauché pour une période de 7 mois, exactement comme j'avais dit dans l'entretien. » Dieu a ouvert une porte qui était quasiment fermée. Il a ouvert une porte, c'était impossible, mais Dieu le fait. Dieu fait des miracles. Dieu ouvre des portes fermées. Vous dites aujourd'hui, c'est pas possible, mais avec Dieu, c'est possible. Du jour au lendemain, il vous fait rencontrer la bonne personne et les choses se décoincent. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, c'est Joseph. C'est ici Daniel. C'est ceux qui nous ont précédés. J'ai cité aussi Jacob. Tous, ils ont fait cette expérience. Ils ont rencontré le Dieu puissant et ils ont vu sa main à l'œuvre. Un deuxième point, c'est maintenant la jalousie des hommes, parce que d'un côté, il y a la bénédiction sur Daniel, de l'autre côté, ça suscite des réactions de ses collègues. Alors, les collègues vont faire un plan pour le détruire. Et ils vont chercher à l'écarter. Ce sont des collègues, ce sont peut-être des amis dans le travail, ce sont des personnes proches de Daniel, et ils sont en train de faire un plan dans son dos contre lui. Il y a un verset de l'Écriture qui dit « Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. » Peut-être vous connaissez la trahison d'un ami, la trahison d'un proche qui s'est détourné de vous et qui maintenant vous met des bâtons dans les roues et qui veut vous écarter pour prendre votre place. C'est une chose très difficile à comprendre, mais qui reflète le cœur humain. Le cœur est profondément tortueux et il est méchant. S'il n'y a pas une intervention de Dieu, eh bien, on voit ce que ça donne, c'est la catastrophe. Alors, cette personne qui était votre ami, maintenant, vous regarde d'un mauvais œil. On le voit, par exemple, chez Saül. Lorsque David, tant que David était tranquille, il n'y avait pas d'histoire, mais quand David a commencé à avoir du succès et que la main de Dieu était sur lui et qu'il allait de victoire en victoire, la Bible dit que Saül a commencé à voir David d'un mauvais œil. Et un jour, il a voulu même le tuer en le transperçant avec sa lance. Donc ça, c'est un changement de caractère. Pourtant, il y a la bénédiction de Dieu sur la vie de David. Il y a la bénédiction de Dieu sur votre vie. Mais ça ne va pas empêcher que certains vont vous voir d'un mauvais œil et vont se retourner contre vous. Alors, il faut être préparé à cela. Ça peut être un membre de votre famille. Je pense encore à David, lorsque par la suite, il a vu son propre fils, qu'il avait vu naître, qu'il avait élevé dans les meilleurs palais, lui avait donné les meilleurs vêtements, les meilleurs aliments. Il vivait dans l'abondance. Cet enfant qui n'avait rien contre son père et qui un jour s'est retourné contre son père par jalousie, parce qu'il voulait devenir roi à la place de son père, et il a mis son père en dehors du royaume. Dans sa propre famille, il a connu la trahison, il a connu la rébellion, et cela l'a beaucoup fait souffrir. Alors, si c'est votre cas, et comme c'est le cas de David, comme c'est peut-être votre cas, eh bien, comment se relever quand on a le cœur complètement brisé? Alors, il y a un verset qui dit dans l'Écriture, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, ça c'est Dieu, et il panse leurs blessures. » Alors, il n'y a que Dieu qui peut guérir votre cœur brisé. Il y a eu un témoignage qui a été donné mardi soir au travers de ce film, qui était une histoire vraie, d'un homme qui a rencontré le Seigneur au travers de sa recherche de Dieu, mais qui avait vécu dans sa vie des moments dramatiques. Il était dans un foyer dont le père était alcoolique, et la mère était battue, et il a même été violenté lui-même physiquement par la personne qui le gardait. Vraiment une histoire terrible. Et il a rejeté vraiment Dieu dans une première partie de sa vie. Il a rejeté Dieu. Et la femme disait, sa mère donc, qui était battue par son mari alcoolique, elle disait, mais mon mari a brisé mon cœur. Et on voyait une telle souffrance que c'est impossible de réparer un cœur brisé comme ça humainement, tellement les années de souffrance ont marqué cette personne. Et ce jeune qui a vécu dans ce contexte contre Dieu, alors qu'il cherchait à démontrer que Dieu n'existe pas et qu'il avait rencontré des chrétiens pour leur dire « je vais vous prouver que Dieu n'existe pas et que tout cela c'est des inventions de la religion », il a fait des recherches en Europe, à Paris, en Suisse, dans différents pays d'Europe, il a consulté des manuscrits, et en fait, dans cette recherche, il a commencé à comprendre que la parole de Dieu, en fait, est réelle, et que Dieu est vivant, et il a commencé à ressentir l'amour de Dieu, et il s'est converti alors qu'il voulait prouver que Dieu n'existe pas. Voyez les chemins de Dieu. Dieu l'attendait à ce rendez-vous. Il était contre Dieu, il ne cherchait pas, il voulait prouver le contraire, mais Dieu avait un rendez-vous avec lui. Alors, quand il y a un cœur comme ça qui est révolté, qui est contre Dieu. Il n'y a que l'action du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, qui peut changer cette vie. Alors, si nous avons été trahis, si nous avons été blessés, comment allons-nous pouvoir nous relever? Eh bien, là encore, la parole de Dieu a toujours une réponse. Jésus nous dit de prier d'aimer ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous maltraitent, aimer, prier avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous pouvons recevoir l'amour de Dieu dans notre cœur, ça c'est une grâce aussi, qui nous permet d'aimer les gens qui ne sont pas aimables. Vous voyez cette femme qui s'appelle Corrie ten Boom, qui a été enfermée pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de sa foi, et puis elle avait gardé des juifs, elle avait caché des juifs dans sa maison. Eh bien, elle a été arrêtée et emprisonnée à Auschwitz, et elle a vu, bien des années après la guerre, lors d'une conférence qu'elle faisait, elle a retrouvé un des bourreaux qui l'avait persécuté à Auschwitz. Et elle a ressenti à ce moment-là, alors qu'elle n'arrivait pas à lui pardonner, elle a expérimenté le pardon surnaturel de Dieu qui est venu dans son cœur et qui lui a permis de tendre la main à cet homme et de lui pardonner. Ça, c'est l'amour surnaturel de Dieu. Parce que personne ne peut pardonner l'impardonnable. C'est impossible. Mais spirituellement, avec la grâce de Dieu, c'est possible. Troisième point, les collègues de Daniel vont le persécuter maintenant. Il n'arrive pas à trouver une faute dans sa vie, dans son comportement. Alors, ils essayent avec la loi de Dieu, comme on l'a lu. Alors, ils s'approchent du roi Darius et disent « Roi, vis éternellement », c'est déjà pour flatter le roi. « Publie un décret royal, permet que l'on prie juste un mois en ta faveur, à l'exception et à aucun autre dieu, et sinon, la personne sera jetée dans la fosse aux lions. » C'est un décret irréversible. Alors, cet ordre a été écrit, et selon la loi des Mèdes et des Perses, personne ne pouvait changer ce décret, même le roi lui-même ne pouvait plus revenir en arrière. Alors ça nous parle de la persécution des chrétiens. Les croyants sont persécutés encore aujourd'hui, et on voit qu'il y a des suppressions des libertés religieuses. Je pense au pays de la Corée du Nord, aujourd'hui le pays le plus persécuté au monde, où les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir la Bible et ils n'ont pas le droit de se réunir comme nous le faisons librement. Certains sont enfermés dans des camps de concentration. Ça paraît inadmissible à notre époque, mais ce sont des choses que des frères et sœurs vivent malgré le progrès de la technique. Le cœur de l'homme est toujours mauvais. Alors nous devons nous rappeler que l'Église est née dans la persécution et elle a grandi dans la persécution, que des frères et sœurs sont persécutés, mais ça n'empêche pas l'œuvre de Dieu de progresser, de prospérer. Nous prions que Dieu les garde, nous prions que Dieu leur donne la force, les aide à surmonter les épreuves, mais c'est dans la persécution que l'œuvre de Dieu se fait quand même, et là elle grandit, et l'œuvre de Dieu avance. Jésus avait annoncé ces choses bien à l'avance. Dans l'évangile de Jean, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le Seigneur n'est pas plus grand que son maître. Si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Si ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et on voit que Jésus prévient les disciples, ils vont connaître la persécution, et c'est vrai encore aujourd'hui, et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous garder dans sa paix, dans ces moments d'épreuve. Alors que fait Daniel ? Au verset 10, maintenant on arrive à un quatrième élément. Au verset 10, Daniel... Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où toutes les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ça nous parle de la persévérance dans l'épreuve. L'épreuve est grande, il risque sa vie, mais il préfère prier Dieu et faire confiance à Dieu qui tient sa vie entre ses mains. Malgré ses nombreuses activités, je remarque que trois fois par jour, il avait placé du temps dans son agenda pour prier Dieu. Et c'est important pour nous chrétiens de prendre la parole au sérieux, pas simplement les versets qui nous arrangent, les versets qui nous parlent de la grâce, de la bénédiction, etc., mais aussi les versets de la sanctification, les versets de la consécration, les versets qui nous parlent de l'engagement. Et la repentance, le pardon, parce qu'il y a des versets quand même qui nous parlent de pardon. Vous savez, on peut prier des heures avec de l'amertume dans notre cœur. Et qu'est-ce que ça va produire ? Ben, ça ne va rien produire du tout. C'est comme si on parlait dans le vide. Parce que Jésus dit que nous devons demander pardon pour nos péchés afin qu'ils soient effacés. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons prier. Certes, nous parlons, mais en réalité, notre cœur est si chargé que cela ne produit rien. Jésus a dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier d'abord avec ton frère, puis tu viens apporter ton offrande. Donc Jésus nous commande ces choses-là. Alors ça veut dire que si on apporte l'offrande, on apporte la prière, mais qu'on n'a pas réglé les conflits, qu'on n'a pas réglé les différends, eh bien Dieu n'écoute pas ces prières-là. C'est comme des paroles en l'air, c'est rien de plus. Mais la nature humaine est complexe, et bien souvent, nous sommes bloqués dans notre esprit, dans nos raisonnements, et c'est pourquoi nous n'avançons pas dans notre vie spirituelle. Daniel, lui, fait le choix radical. Il dit « Je prie Dieu, son cœur est pur, il n'a rien contre personne, il n'a rien contre ses collègues. Ses collègues, eux, veulent son mal, mais lui, il prie pour eux. Son cœur est droit devant Dieu, donc il prie dans la foi. Alors, il peut s'attendre à la grâce de Dieu. Et finalement, il dit « Ma vie est entre les mains du Seigneur. Rien ne peut arriver sans qu'il ne l'ait permis. Je fais confiance à mon Dieu. » Voilà sa position. Voilà notre position dans l'épreuve. Cinquième point, je vois la confiance maintenant de Daniel. À ce stade-là, on pourrait dire, Daniel risque gros, mais en même temps, Dieu est avec lui. Il peut espérer que Dieu va lui faire échapper la fosse aux lions d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il connaît son Dieu, il peut changer les choses et permettre que peut-être il soit muté quelque part, enfin qu'il se passe quelque chose, pour qu'il échappe en tout cas à la fosse aux lions. Ça, il peut l'espérer. Il peut aussi espérer dans la faveur du roi. On a dit tout à l'heure que la faveur du roi était sur lui. Et au verset 14, il est dit que le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Donc on voit que le roi est de son côté. Quand Daniel est arrêté parce qu'il a prié, non seulement Dieu est avec lui, mais il peut espérer aussi dans le roi. Le roi, c'est quand même le souverain du royaume. Il peut théoriquement tout faire, mais en réalité, il est coincé, le roi. Il ne peut rien faire pour Daniel. Même s'il veut sauver Daniel, il a à cœur de le sauver, il ne peut rien faire. Alors, on se rend compte que Daniel est dans une situation sans issue. Le roi ne peut rien pour lui, personne ne peut rien pour lui. Humainement parlant, sa situation est terminée. Ses collègues sont contre lui, ils ont témoigné contre lui, ils l'ont trahi. On pourrait dire que ses amis l'ont abandonné. Et il se retrouve seul. Quelquefois, nous sommes dans cette situation où il n'y a plus personne qui peut rien faire pour nous. Même la personne qui pourrait, ben, elle ne peut pas à ce moment-là parce qu'elle est coincée ou elle ne peut pas intervenir. Vous voyez, le roi, il voulait, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le sauver. Alors, c'est écrit dans 2 Timothée, c'est Paul qui parle. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » C'est-à-dire, il prie pour que même s'ils l'ont abandonné, bien que Dieu leur pardonne. Mais il dit au verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » Et peut-être vous êtes dans cette situation ce matin. Personne ne peut rien dans votre situation, mais il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, et c'est le seul, c'est notre Seigneur Dieu. Il vient vous assister et il vient vous fortifier de sa force toute puissante. Alors dans sa grâce, c'est lui qui vous relèvera. Daniel est jeté dans la fosse aux lions, comme un criminel. Certainement, en tant que croyant, on aurait pu espérer qu'il échappe à ce moment douloureux. Ses collègues sont tranquilles. Ils se frottent les mains. Leur plan marche à merveille. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. C'est terminé pour Daniel. Ça, c'est vraiment une injustice. Qui pourra supporter l'injustice? Vous êtes condamné alors que vous êtes innocent. Vous êtes jeté dans la fosse alors que vous n'avez rien fait de mal. Et ça, ça peut nous arriver. Mais le Seigneur n'a pas délivré Daniel de la fosse aux lions, mais dans la fosse aux lions. Et c'est ça qui nous arrive aussi, c'est que nous sommes dans les situations de tempête, nous sommes dans les situations de souffrance, de prison, persécution, trahison, rejet, et toutes ces choses nous accablent, mais c'est au sein même de l'épreuve que Jésus vient à notre secours et qu'il nous fait ressortir de là. C'est dans ces moments que le Seigneur intervient. Alors, voyez, il y a la crainte du roi au verset 20 maintenant, un autre point. Verset 20, le roi qui prie pour que Dieu protège Daniel, le Dieu de Daniel, avec peu d'espoir, peu de conviction, il vient le lendemain et sans grande conviction, il s'adresse à la fosse et il dit, il appelle Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Ça, c'est le témoignage du croyant. Il a laissé le témoignage d'un croyant persévérant et fidèle à Dieu. Alors, Dieu a-t-il pu te délivrer des lions? Et lui, il n'ose pas trop y croire, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il pense que Daniel est mort. Ça, c'est vraiment l'exemple de ceux qui prient sans croire. Ils prient en même temps pour que Dieu te garde, mais en même temps, ils ne croient pas que c'est possible. C'est arrivé à Pierre. Il était en prison, il devait être exécuté. L'Église priait pour lui, mais en même temps, ils ne croyaient pas trop que c'était possible qu'il soit sauvé de la prison, parce que Jacques avait été tué quelque temps avant, donc pour Pierre, c'était clair que c'était fini. Mais en même temps, il priait pour que Pierre soit délivré. Et en même temps, il ne croyait pas, parce que quand Pierre vient frapper à la porte, alors qu'il a été libéré par un ange, personne dans l'auditoire ne croit que c'est Pierre. Il pense que c'est son ange, que la servante a entendu quelqu'un, mais ce n'est pas Pierre, il ne croit pas que c'est possible. Alors que dans le même temps, ils sont en train de prier pour que Dieu le fasse. Et en même temps, ils n'arrivent pas à le croire. Alors c'est facile de croire pour des petites choses, pour des petites situations. Mais je vois que dans la parole, Dieu nous demande de croire dans de grandes choses et même des choses impossibles. Si vous regardez Abraham, ce qu'il devait croire, c'était complètement impossible. Il devait croire qu'il allait devenir le père d'une grande nation à l'âge de 75 ans, sa femme étant stérile. C'était impossible. Et c'est devenu 25 ans plus tard. David devait croire qu'il allait vaincre le géant Goliath, qui était armé, qui était puissant, qui était beaucoup plus fort que lui. Goliath, facilement, pouvait le vaincre. Mais David devait croire. Les disciples devaient croire que Jésus pouvait nourrir toute une foule avec 5 pains et 2 poissons, ce qui est totalement impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Et c'est ça qu'il nous faut saisir, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. C'est une question maintenant de foi. Donc Daniel est rentré dans la fosse, dans la foi, et le verset 22 dit que Dieu a envoyé son ange, et à ce moment-là, il a fermé la gueule des lions. Ils n'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ah, Daniel ne pouvait pas s'en sortir face au lion méchant qui rugissait. Il avait environ 80 ans, il n'était pas de la toute première jeunesse. Il n'avait pas la force. Il se serait fait dévorer en quelques minutes. Mais avec Dieu, Dieu en fait a changé le caractère des lions, ces lions qui étaient féroces, il les a transformés et les a rendus doux comme des agneaux. Ça, c'est ce que le Seigneur fait dans notre vie. Nous étions loin de lui, nous étions perdus dans nos ténèbres. Il nous a transformés pour faire de nous une nouvelle création. C'est ce que Paul dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, le Seigneur le fait avec les lions, eh bien, il le fait avec les êtres humains. Il les transforme, il les change, il change leur cœur et surtout, il nous sauve de nos péchés. Et encore aujourd'hui, Dieu change les caractères. J'ai entendu des témoignages de personnes qui avaient des caractères tellement, tellement durs avant leur conversion. C'est le missionnaire Richard Hellem qui témoignait à la journée missionnaire. Et il sert au Cambodge. Il parlait d'un Cambodgien qui avait le surnom de Gâchette Facile. Et c'était quelqu'un qui était violent et qui tuait des gens. Et un jour, il a rencontré le Seigneur. Et son surnom est devenu Agneau Tout Doux. Voilà. Ça veut dire, il était rempli d'amour. Et après, vous le voyez, vous n'aurez jamais pensé qu'il avait été un bandit, il était un criminel, il frappait des gens. Et voilà, ça c'est l'œuvre de Dieu. Il a changé un homme méchant, dur, en homme bon et rempli d'amour. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Alors on termine avec le verset 24, c'est maintenant le temps du jugement. Ceux qui ont creusé la fosse, qui ont voulu précipiter Daniel dans la fosse aux lions, c'est ceux-là même qui vont y être précipités. Parce que Dieu va rendre des comptes à chacun. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Donc on voit que là, Dieu n'est pas intervenu, il a laissé les lions, la nature des lions, prendre le dessus, et ils ont tué tous ces misérables qui avaient fait le mal. Ceux qui avaient creusé une fosse pour détruire Daniel sont eux-mêmes tombés dedans. Et ça, c'est vrai pour nous chrétiens, nous pouvons les regarder, ils se donnent du mal pour tendre leur piège, ils font tout ce qu'ils peuvent, tous leurs efforts pour vous faire chuter, mais nous croyons que la bonne main de Dieu est de notre côté. Ils veulent vous faire du mal, c'est en fait un mal qu'ils préparent pour eux-mêmes, car c'est fait comme le boomerang. Ils sont en train de lancer de mauvaises paroles, ils sont en train de faire des pièges, et tout va retourner contre eux. Nombre 23 dit ceci, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu ?» Alors, il y en a qui font de l'enchantement, il y en a qui font de la divination, il y en a qui font du trafic. Mais nous sommes en Christ et nous sommes enfants de Dieu et nous sommes dans la main du Tout-Puissant. Notre destinée n'est pas entre la main des hommes, elle est entre la main de Dieu. Notre destinée n'est pas entre la main d'un médecin, elle est entre la main de Dieu. Notre destinée ne dépend pas de la crise, elle ne dépend pas des difficultés qui nous environnent ou peut-être des collègues qui sont contre nous au travail. Notre destinée, elle dépend de la volonté de Dieu. C'est lui qui ouvrira les portes ou qui fermera les portes. C'est Dieu qui décide. Alors, en conclusion, on est souvent persécuté, on est souvent rejeté. Parfois, le cœur est brisé. Mais au moment favorable, Dieu intervient dans sa grâce. Il panse les blessures. Il relève celui qui est abattu. Simplement, faisons comme Daniel. Restons persévérant, c'est-à-dire gardons la bonne vision de l'œuvre de Dieu, de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde. Continuons à prier, même si les temps sont difficiles. Continuons. Il trouvait le temps de prier. Je suis étonné, des fois aujourd'hui, on me dit j'ai pas le temps de venir prier, je peux pas prier. Alors que nous avons, si nous nous organisons bien, nous avons beaucoup de temps, mais souvent nous sommes désorganisés. Apprenons à bien gérer notre agenda comme le Seigneur nous l'enseigne, et vous verrez, nous avons beaucoup de temps, il faut bien l'utiliser simplement, et surtout garder les priorités. C'est essentiel de prier, c'est essentiel de trouver du temps avec le Seigneur, déjà personnellement, de trouver du temps pour se rassembler, pour prier, chercher la face de Dieu ensemble, et ce temps, nous l'avons. Dieu nous a donné le temps. Et si nous mettons Dieu à la première place, je l'ai vu des quantités de fois, et ce que nous pensions que nous ne pourrions pas faire, que nous n'avions pas le temps, mais Dieu permet que ça se fasse plus rapidement que ce que nous pensions, et finalement on a le temps de tout faire, voire même peut-être plus même que ce qu'on pensait, parce qu'on a honoré Dieu, parce qu'on l'a mis à la première place. Si nous honorons Dieu, Dieu nous honorera toujours. Mais si nous disons « Oh, j'ai pas le temps, je mettrai Dieu en dernier recours, si vraiment j'ai une place quelque part, je prierai, je viendrai prier à l'église », eh bien c'est pas comme ça que vous honorez Dieu. On donne les miettes au Seigneur et ça ne peut pas fonctionner. Mais si au contraire on place Dieu au centre de notre existence et on dit « Ça, c'est un rendez-vous avec Dieu. Je ne veux pas manquer cette heure de prière ou ce moment de prière ou ce moment avec le Seigneur, ce rendez-vous à l'église, ce temps à la maison où je prie, ce temps où j'étudie la parole. » Eh bien, Dieu va permettre que le temps soit vraiment utilisé au meilleur de son potentiel. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions quelques instants.